Aujourd'hui, 25 juillet, l'Église célèbre le 17e dimanche du temps ordinaire, mais c'est aussi la fête de l'apôtre Saint-Jacques. Abbé Philippe Aïtéa, bonjour.
Bonjour.
Alors bien sûr, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, mais cette année est une année un peu particulière, puisque chaque fois que la Saint-Jacques tombe un dimanche, c'est une année jubilaire jacquaire.
Voilà, exactement. Donc ça intéressera aussi tous les pèlerins du chemin de Compostelle, surtout ceux qui, après avoir aperçu l'église du Monte Gozzo, pourront accéder, participer à la liturgie pour vénérer l'apôtre.
C'est ce jour-là, entre autres, qu'on actionne le grand encensoir dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
Oui, je l'ai vu faire une année jacquaire, il y a à peu près de 30 ans. Alors, donc, ce qui l'agite, parfois font en sorte que le grand encensoir se rapproche de la foule, il y a quelques cris, et puis donc ça s'élève avec beaucoup d'art.
Voilà. Ils sont plusieurs à le faire bouger.
Oui, je crois
qu'ils vous a jamais sollicité à vous pour le faire?
Non, moi je ne suis pas employé de l'insigne basilique. Ils sont, si mes souvenirs sont bons, ils sont 4 ou 5. Il faut que ça soit synchronisé, quoi.
Donc nous célébrons le 25 juillet la fête de Saint-Jacques. Saint-Jacques le majeur, ça veut dire qu'il y en a un qui s'appelle le mineur.
Voilà, donc il y a le fils de Zébédée, les deux fils de Zébédée, l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques. Voilà. Et puis il y a un autre Jacques qui n'est que mentionné, dans l'évangile. Peut-être une intervention lors du dialogue de la scène et auquel on attribue l'épître de Saint-Jacques. Mais bon, c'est pas de celui-là. Celui-là est célébré le 3 mai avec l'apôtre Saint-Philippe. C'est de Jacques dit le majeur dont il est question.
Vous l'avez dit, ils sont deux frères ?
Ils sont deux frères, Jacques et Jean, tous deux pêcheurs du lac de Galilée, tous deux disciples de Jean-Baptiste, dont vous avez plusieurs récits de vocation, des fils de Zébédée, vous avez Jean-Baptiste qui leur désigne Jésus et ils vont se mettre à leur suite, et vous avez l'appel de Jésus de ces pêcheurs-là au bord du lac de Galilée, alors qu'ils sont en train de remailler les filets avec leur père.
Et ils répondent positivement à cet appel ?
Et ils répondent positivement et à l'appel de Jean-Baptiste. Donc il devait y avoir une aspiration à rencontrer le Messie, à être avec le Messie, et donc à l'appel de Jésus lui-même à devenir pêcheur d'hommes.
Jacques, Jean et Pierre, ce sont les plus proches disciples du Christ ?
Voilà, Pierre, Jacques et Jean, c'est une espèce de petit sous-groupe qui va participer à des événements importants de la vie du Christ, notamment la résurrection de la fille de Jaïr, la transfiguration. Jésus manifeste dans sa chair sa divinité de Fils de Dieu, et après un autre événement où ils n'ont pas été tout à fait à la hauteur, lors de l'agonie, Jésus les prend avec lui pour qu'ils soient proches de lui au moment de l'agonie au jardin de Gethsémani, mais là, ils s'endorment. Et après, il y a le drame de la croix. Et c'est quand même un peu la débandade à part Jean.
Jean, c'est l'évangéliste.
Jean, c'est l'évangéliste, oui.
Et donc son frère Jacques, que nous célébrons aujourd'hui 25 juillet, alors tous les deux, ils avaient une mère.
Ils avaient une mère qui avait de l'ambition pour eux, voilà, qui voulait les placer, qui seront les premiers. Puis il y avait Pierre aussi, que Jésus avait choisi, donc il fallait se placer. Voilà, il y a la mère, ça dépend des textes. Une fois c'est la mère, et dans un autre évangile, ce sont eux-mêmes, et puis ils prennent Jésus à part pour pas que ça se sache trop quand même. Voilà, et Jésus leur dit des paroles mystérieuses, mais dans le fond, leur demandant s'ils veulent participer à sa passion en buvant donc sa coupe.
Comment va mourir Saint-Jacques ?
Oh, donc Saint-Jacques, Hérode veut faire plaisir aux Juifs alors que l'Église se développe. Donc il va arrêter Saint-Jacques, il va le faire décapiter sûrement dans les années 44.
Et ensuite, comment va se répandre son culte ?
C'est du côté de l'Espagne qu'il faut regarder. Vous avez les traditions espagnoles qui veulent qu'avant son martyr, Saint-Jacques soit venu évangéliser l'Espagne, que ça a été très difficile. Et donc la mère de Dieu a été apportée, comme disent les Espagnols, en carne mortal, dans sa chair mortelle, à Saragosse, sur le pilier, pour donc le conforter, le dynamiser. Et puis bon, elle a été rapportée, bien sûr, si j'ose le dire, à Jérusalem. Donc il aurait évangélisé l'Espagne, il serait reparti mort martyr, puis bon, la tradition dit qu'on aurait rapporté donc ses os en Espagne. Et au Moyen-Âge, donc dans les années 800, il y aurait eu donc une apparition à un ermite qui aurait donc vu un chemin d'étoiles, Compostelle, qui aurait averti l'évêque et on aurait retrouvé le tombeau.
Compostelle, ça veut dire le champ de l'étoile.
Champ de l'étoile, c'est du moins la signification que l'on retient. Bon, ça peut être aussi Campus Situtum, un champ qui est situé. Mais bon, ça, il y a plusieurs hypothèses.
Comment expliquer que le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle ait traversé les siècles ? À l'époque, on faisait des pèlerinages à Rome, en Terre Sainte.
À Rome, Jérusalem et Compostelle. Ce sont les grands pèlerinages du Moyen-Âge. Donc, dans la mesure où on considère qu'il y a le tombeau de l'apôtre, donc des foules vont se rendre en pèlerinage, soit en pénitence. On a retrouvé, je crois, en Basse-Navarre, voilà, un vieux document disant qu'une femme d'une famille était partie en pénitence, soit en action de grâce pour des dons reçus de Dieu, voilà, des grâces reçues. Donc voilà. Mais le pèlerinage aura des hauts et des bas. Par exemple, au XIXe siècle, l'Espagne est avec les guerres napoléoniennes, il y a eu la Révolution, il y a eu tout ça. Donc le pèlerinage va cesser. Et on pensait dans les années 1970 du XXe siècle, pensait que le chemin avait été oublié quand il y a eu donc un regain de dévotion, pas uniquement, mais d'intérêt pour le pèlerinage. Voilà.
En 1989, Saint Jean-Paul II ira comme pèlerin à Compostelle. Ce sera les Journées mondiales de la jeunesse à Compostelle, et c'est aussi, ça fait partie aussi de la redynamisation du pèlerinage.
Oui, ça avait déjà repris. Moi, je me suis trouvé à Compostelle dans ces années-là, je ne me rappelle plus si c'est 88 ou 89, le pèlerinage avait déjà repris, et l'archevêque de l'époque avait fait une belle lettre pastorale sur le pèlerinage. Mais enfin, ça peut être un pèlerinage chrétiens, ça peut être aussi des gens qui marchent vers Compostelle sans obligatoirement avoir la foi chrétienne, mais pour réfléchir, pour un tas de choses. Le VT, c'est que personne n'en revient indemne.
Alors parlons un peu aussi de notre belle cathédrale de Bayonne, qui a été classée au titre de l'UNESCO pour les chemins de Saint-Jacques.
Oui, vous avez une petite plaque, effectivement, près de la cathédrale, qui dit que voilà, elle fait partie du chemin de Saint-Jacques. Alors, il y a divers chemins de Saint-Jacques, ça serait trop long peut-être de...
Et puis à l'intérieur, il y a les trois chemins français qui se rejoignent à Ostabat.
À Ostabat, voilà. Effectivement.
Donc on est dans un territoire qui est imprégné de ces chemins de Saint-Jacques.
On est dans ce territoire. Quand vous passez la frontière aussi, ils ont mis... du côté d'Irun, Fontarabie, tout ça. Vous avez des petites coquilles en métal pour marquer la direction de Compostelle.
Et puis il y a cette grande étape qui est, je pense, la plus dure du chemin, celle entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronceau.
C'est sûr qu'il doit falloir, il doit falloir monter, mais bon, On en est quand même récompensé, arrivé à Roncevaux. Bon, bien sûr, il y a la prière, mais il y a aussi peut-être un peu de soulagement. Là, on y mange, on se repose, et aussi bien cette, la nature, la beauté du site de Roncevaux. Pour ceux qui aiment l'histoire aussi, l'enracinement historique un peu de la Navarre.
Alors, il y a aussi les insignes du pèlerin que l'on retrouve aussi sur les statues représentant Saint-Jacques.
Oui, donc il y a un bâton et puis...
La gourde.
Oui, une espèce de gourde et une coquille. Bon, on ne sait pas trop. Le bâton, on voit très bien ce que c'est. Ça aide le pèlerin à marcher. Aujourd'hui, un peu, vous avez eu la mode de la marche norvégienne avec deux bâtons. Ça nous dit des choses. Bon, la gourde, sûrement, pour un peu d'eau, ou peut-être un peu de vin. La coquille, on ne sait pas trop. Ça semble.
Mais pour boire ?
Non, ça semble lié à une légende concernant Saint-Jacques auprès de la mer. Ce genre
un signe de reconnaissance aussi entre les pèlerins ?
De toute façon.
Alors, il y a les insignes, mais il y a aussi les chansons des pèlerins, il y a aussi le cri du pèlerin.
Là, vous avez Ultreia. Voilà, le fait d'aller au-delà. Alors, c'est un au-delà géographique. Mais c'est aussi un au-delà spirituel. On peut voir, par exemple, que l'archevêque de Compostelle actuel a fait une lettre pastorale pour que, bien voilà, cette année, j'acquière un renouveau dans la foi, la charité et le témoignage. Alors, c'est une façon de dire Ultreia aussi.
Signalons aussi que notre évêque est l'évêque des chemins de Saint-Jacques pour la France.
C'est exact. Vous avez plusieurs évêques, enfin, tous ceux qui ont... Qui ont une bonne partie du chemin de Saint-Jacques chez eux, voilà, qui se réunissent ou qui se réunissaient de temps à autre un peu pour la pastorale du chemin.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beiter, de nous avoir parlé de Saint-Jacques en ce 25 juillet. Donc 25 juillet, c'est la fête de Saint-Jacques le Majeur. Merci à vous.